La journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut, ça va?
Oui, ça va bien, toi. Ce qui retient l'attention du côté des États-Unis aujourd'hui, c'est ce qui se passe à la frontière sud du pays, à la frontière du Mexique. Ça gagne de plus en plus de traction, cette histoire-là. En fait, on sépare les enfants des migrants illégaux de leurs parents. Et là, ben, on commence à réaliser l'ampleur de ce phénomène-là.
On commence à réaliser l'ampleur de ce phénomène-là, mais tu sais... Moi, je suis fasciné par ce pays-là. Je lis beaucoup de sources médiatiques et ça fait peut-être, je te dirais, écoute, à peu près 3 semaines que l'histoire couvait. Et ce n'est que tout à fait récemment là, que ça a pris énormément d'ampleur. C'est un énorme pays. Hein? C'est pas comme le Québec. Le Québec, même le Canada, c'est un petit pays à ce chapitre-là. Il y a une nouvelle, ça fait le tour du pays rapidement. Aux États-Unis, ça peut prendre du temps avant de s'inscrire dans l'agenda médiatique, politique national. Et là, bang, en fin de semaine, là, le feu a pris pour vrai. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment épeurant dans... appelons ça une perte d'empathie, si tu permets. C'est comme si, aux États-Unis, il y avait une masse critique de gens qui s'en fichait complètement de voir d'autres êtres humains souffrir comme ça. On est dans un cas classique de la fin justifie les moyens. La fin, le but, c'est de juguler l'immigration illégale, donc tous les moyens sont bons. Mais dans l'histoire de l'humanité, là, la fin justifie les moyens, ça a souvent été, disons, une autoroute vers des atrocités puis des exactions, quand c'est pas juste de l'indignité, et c'est ce qu'on voit ici.
Là, on parle de près de 2000 enfants qui ont été séparés, même plus de 2000 enfants. On est rendu à près de 2300 cas. On a eu une photo qui a fait le tour du web. On a de l'audio maintenant qui a été obtenu par l'ONG ProPublica. Juste pour vous faire entendre un peu de quoi ça a l'air, l'ambiance à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, je vous ai sorti un 20 secondes des enfants là-bas. Puis les employés des services frontaliers peuvent pas vraiment les consoler ou ne veulent pas les consoler. Je vous laisse déterminer... ce que vous pensez de ça, on peut écouter un extrait.
Et toi?
Guatemala.
No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, consulado?
¿Qué va a pasar con su consulado?
El papá.
Ça parle en espagnol, on demande pourquoi tu pleures. Ben, papa est pas là, ma tante est pas là, mamie est pas là. On a séparé les enfants de leurs parents. Quand on entend ça, moi, honnêtement, je suis pas capable d'être insensible à ça. Donc, quand tu dis, ça a pris du temps avant que le peuple américain prenne conscience de ce phénomène-là, penses-tu que c'est de l'aveuglement volontaire ou c'est de l'insensibilité?
Non, je pense que ça a pris du temps avant de monter à la surface, de percoler à la surface. Pourquoi? Parce que, d'une part, comme je te disais, énorme pays, beaucoup d'enjeux, et aussi, Trump est à lui-même un cirque du soleil de nouvelles. Il produit des nouvelles à chaque jour, donc il y a un effet de distraction sur plein d'autres nouvelles, enjeux, qui prennent plus de temps ou qui percolent pas jusqu'à la surface. Ça, finalement, c'est à la surface. Et là, on peut se réjouir du fait que, écoute, tant dans le milieu politique que le milieu médiatique, il y a des dénonciations là-dessus. Il y a des Américains de bonne volonté qui disent, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens d'utiliser des moyens aussi radicaux, aussi cruels, aussi inhumains pour arriver à tes fins. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que il reste qu'il y a quand même une sorte de masse critique aux États-Unis pour ce genre de décision-là. C'est pas nouveau que... Écoute, voici un pays qui avait un moignon de couverture santé. On s'est donné ça sous Obama. Puis un moignon, là, ce que je veux dire, c'est que on n'arrivait pas là au niveau de d'autres pays industrialisés. Les États-Unis, c'est encore un pays où il y a moins de gens qui sont moins bien couverts que partout ailleurs en Occident. Okay? Pour la santé, ben quand les républicains ont enlevé ça petit à petit, il y a plein de monde qui était content. Il y a plein de monde qui trouvait que c'est une bonne idée. Ben, quand je parle d'un public pour la brutalité aux États-Unis, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a peut-être des gens qui se mobilisent et qui disent que ça n'a pas de bon sens de séparer des enfants de leurs parents à la frontière. Ben, il y a plein de gens qui trouvent que c'est une très bonne idée. Il y a plein de gens qui ont décidé qu'ils laissaient l'empathie au vestiaire et que si la fin était bonne, ben les moyens sont justes.
Oui, il y a la question de la partisanerie aussi. Là, la balle est dans le camp des démocrates. Trump, hier, tweetait « Pourquoi les démocrates ne nous donnent pas les votes nécessaires pour corriger les lois sur l'immigration? » Comme si toute la chaleur, tout ce processus-là était de la faute des démocrates qui ne permet pas aux républicains de réformer leur truc.
Je reviens à la masse critique de gens qui manquent d'empathie. Il y a aussi une masse critique de gens qui sont mal informés. Voici le président des États-Unis qui, depuis des mois et des mois, dit des sottises, des choses qui sont fausses. Aujourd'hui même, il a dit que l'Allemagne avait vu le taux de criminalité augmenter de 10 % à cause des migrants. C'est faux. Le taux de criminalité en Allemagne a baissé de 10 % semble-t-il. Okay? Qui va vérifier ça parmi les imbéciles qui trouvent que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, Donald Trump? Mm-hmm. Personne. Les gens sont confortés dans leurs préjugés. Migrants égale pas bon. Migrants donc égale hausse du taux de criminalité en Allemagne. Ça doit être vrai. En plus, le gars qui le dit, c'est le président des États-Unis. Peu de gens vont faire l'effort de vérifier. Donc, je reviens à ça. Il peut dire n'importe quoi. Ouais. Il avait raison pendant la campagne électorale quand il avait dit... C'était-tu en campagne électorale ou peut-être à l'investiture? Il avait dit, moi, là, je pourrais tirer quelqu'un dans le milieu de Fifth Avenue à New York et je ne perdrais pas un électeur. Ouais. Il avait raison.
Mais Patrick, quand on écoute ça, quand on voit Trump aller depuis une couple de semaines, il insulte les alliés, il chante les louanges des dictateurs. On est à la veille d'une guerre commerciale possible avec les tarifs qui ont été imposés à la Chine, avec ce qui se passe avec Justin Trudeau. Là, il y a la question de la frontière au sud avec le Mexique. Il y a des Québécois qui entendent ça, puis il y a comme un mouvement de boycott qui semble vouloir se dessiner, mais... À quel point ça peut gagner de l'importance, puis à quel point c'est vraiment la bonne façon d'agir, de dire « OK, j'irai pas dans le Maine cet été, qu'est-ce que tu penses de ça? »
Bien, je pense que ce sont des anecdotes intéressantes, peut-être des anecdotes révélatrices. Est-ce que ça a un effet dans le réel? Ça va prendre des mois avant de le vérifier. Il va falloir aller chercher les chiffres du tourisme pour voir si c'est vrai que de moins en moins de Québécois ont décidé d'y aller, de Canadiens aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont décider peut-être de voter avec leurs pieds. Est-ce que ça peut faire une différence? Je ne sais pas. Tu sais, je voyais quelqu'un dans le Journal de Montréal, là, je pense que c'était en fin de semaine, qui disait, bon, mais lui, il veut lancer un mouvement pour que les gens achètent des fruits et légumes québécois. Il ne veut plus acheter de fruits et légumes américains. Regarde, on a une économie nord-américaine extrêmement intégrée, d'une part. Donc, c'est très difficile de dire, moi, je vais faire abstraction de produits américains. Très difficile. Quand les gens disent, moi, j'achète local, je comprends que tu achètes local, mais des fois, quand tu achètes certains biens de consommation, ben écoute, il y a des métaux qui viennent d'Indonésie, il y a du labeur qui vient du Mexique, et après ça, il va y avoir du plastique fait aux États-Unis. C'est un exemple que je te donne. C'est très difficile de dire, moi, je consomme pas de produits américains. L'autre affaire, disons que juste pour les produits agricoles, si tu te dis, là, OK, on va vraiment là lancer un mouvement qui va marcher, là, ben, qui va souffrir en premier? En premier, ceux qui vont souffrir, par exemple, c'est les immigrés qui sont en Californie, qui viennent souvent d'Amérique du Sud,
et qui ramassent
des fraises et des avocats. Ouais. T'sais? Fait que c'est eux autres, mais les avocats, je ne sais pas en Californie, là, mais c'est les raisins, etc. Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est eux autres en premier qui vont perdre leur job.
C'est la même chose pour le tourisme, Patrick. Ça va être l'hôtelier, ça va être le gars qui a son chac à homard dans le même.
Ménage.
Ben oui.
Ben oui, exactement. Donc, moi, je préfère ce que le gouvernement Trudeau a fait, ce que d'autres gouvernements en Europe font. C'est-à-dire, on établit une liste de tarifs. Tu nous taxes, mais regarde, on va mettre des taxes, nous aussi, sur tes produits à l'exportation. Et si tu remarques, on cible des régions qui sont sensibles politiquement, qui sont susceptibles, disons, de faire pression sur des élus républicains pour leur dire « Hey, les boys, allumez des guerres commerciales, ça n'a pas de bon sens. Regardez, on vient de slacker 40 personnes, 100 personnes. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours pensé que les mouvements de boycott, là, c'est bien meilleur que ça marche. Mm-hmm.
On va parler un peu de sport, si tu le veux bien, Patrick. On est en pleine période de Coupe du monde du côté de la Russie. La semaine dernière, on a appris que le Canada allait recevoir une partie de la Coupe du monde de 2026. Il va y avoir 80 matchs au total, 10 au Canada. Ouais. Est-ce que tu vois ça comme une bonne nouvelle pour le sport ou est-ce qu'au final, ça ne changera pas grand-chose?
Ben, tu veux dire pour le sport du soccer au Canada?
Le sport du soccer, oui.
Ben, Ben, regarde, moi, je m'en viens mieux, là. J'avais 14 ans quand le Canada s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde en 1986 au Mexique. Ouais. C'est la seule fois que le Canada avait réussi à se qualifier pour le tournoi final. Est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement? Peut-être. Mais regarde, il y a beaucoup moins de joueurs de soccer qui évoluaient au Canada à l'époque. On avait réussi à se qualifier. Probablement parce que le Mexique était qualifié d'office. Je sais pas quoi. Je me rappelle pas c'était quoi l'aberration qui a fait que cette année-là, on s'est qualifié. Mais moi, cet argument-là de « Hey, si on a la Coupe du monde au Canada en 2026, regarde, il va y avoir un effet d'entraînement absolument époustouflant, ça me laisse de glace. Mm-hmm. » C'est pas un projet national de dire « On va envoyer une équipe de professionnels à la Coupe du monde de soccer. » Puis tant mieux si ça arrive. C'est le fun. Parfait. Là où je suis plus inquiet, je te dirais, c'est les conditions que la FIFA impose aux pays hôtes et aux villes hôtesses sont à ce point désavantageuses que la Colombie-Britannique a retiré Vancouver comme site possible. Chicago s'est retiré avant même la décision de la FIFA, a dit au comité organisateur là, qui pilotait la candidature nord-américaine, savez-vous quoi? Enlevez Chicago de votre liste. Et Minneapolis a fait la même chose. Et partout, on a cité l'intransigeance de la FIFA à négocier certains détails techniques et aussi le fait que ça allait coûter une beurrée. Et plus gros problème, il n'y a pas moyen de savoir ça va être quoi la taille de la beurrée en question.
Mm-hmm. Du côté de Montréal, on regarde le stade olympique, voir s'il serait prêt pour 2026. On parle de remplacer le toit et tout. Penses-tu que le jeu en vaut la chandelle puis qu'il y a des élus qui vont être prêts à porter ce projet-là jusqu'en 2026?
Ben regarde, le remplacement du toit est déjà budgété, OK? Je pense qu'il est supposé être complété en 2023, si je ne me trompe pas. Il y a 300 millions qui sont budgétés pour ça. C'est sûr que dans un monde idéal, moi, je préférerais qu'on mette le stade à terre plutôt que de toujours pelleter des millions dedans. Ouais. Mais il paraît que ça coûterait des milliards pour le détruire. À partir de là, ça te prend un toit. Et là, c'est là que le jeu de la FIFA, l'influence de la FIFA, entre en ligne de compte. Est-ce qu'on va décider de modifier le devis technique pour accommoder la FIFA, par exemple, en ayant un toit partiellement rétractable? Moi, je dis, je veux bien, ça dépend combien.
Exact.
Et l'autre affaire, oublie pas une affaire. La facture estimée pour le Canada, pour 10 matchs, c'est 300 millions de dollars.
Mm-hmm.
Estimé. Après ça, qui paye quoi, comment, entre le fédéral, le provincial et les autorités municipales? Ça, c'est pas clair. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce qui a poussé Vancouver à sortir du deal, c'est beaucoup le devis technique de la FIFA, OK? Et ça avait défrayé les manchettes en Colombie-Britannique. Quand j'ai fait des appels la semaine passée à Québec et à Montréal, il n'y a personne qui avait entendu parler de ce devis technique-là. Et cette ignorance-là, je t'avoue, là, je trouve ça extrêmement inquiétant.
Oui, puis ce serait un peu fou aussi, par exemple, si Montréal recevait 2 ou 3 matchs, par exemple, de changer des plans et des devis puis d'investir des sommes colossales pour quelques matchs à peine qu'on regardera pas tant que ça. Si c'est Edmonton puis Toronto qui ramassent la part du Lion, Montréal va se ramasser avec les restants, puis il va falloir investir dans le stade quand même.
On verra, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle même pour, disons, il y a 10 matchs, disons qu'il y a 3 matchs à Montréal. Disons qu'il y en a 4, ça vaut-tu la peine comme société qu'on investisse là-dedans? Ouais. Parce que je vais juste te rappeler une affaire. La FIFA, c'est une patente qui est extrêmement lucrative. La FIFA a fait 2 milliards de profits avec le mondial de 2014 au Brésil. Et dans le fameux devis technique dont je te parlais, les exigences de la FIFA, là, une des exigences, c'est les profits qu'on va faire ici, tu ne peux pas les taxer. Fait que s'ils font 2 milliards de dollars avec la Coupe du monde nord-américaine, ça veut dire que les gouvernements locaux ont accepté de ne pas taxer ces profits-là.
Donc, on se ramasse dans l'aventure américaine avec le Mexique et d'ici là, il va y avoir Qatar 2022. Ben oui, comme si c'était le régime qui devait recevoir ce tournoi-là.
Regarde bien, Qatar 2022, Russie 2018, ça te dit quoi quand tu regardes aussi où vont les Jeux olympiques dans le passé récent, dans l'avenir? Les Jeux olympiques, les Coupes du monde, on va avoir de plus en plus tendance à aller dans des dictatures ou dans un régime autoritaire où le citoyen, comme toi puis moi qui en discute de façon critique, a absolument rien à dire.
Patrick, c'était notre dernière collaboration avant la période estivale. Est-ce que tu as un gros été de prévu devant toi?
Non, écoute, je travaille fort, puis j'ai décidé de prendre des vacances fortes cette année, fait que je vais prendre plusieurs semaines off, comme on dit. Fait que je te souhaite à toi et à ta gang beaucoup de soleil puis de repos.
Pareillement, je te souhaite je te transmets les salutations de toute l'équipe. Patrick, à bientôt.
Salut, ciao.
Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse.